Oui, Seigneur, merci parce que nous avons l'espérance de ton retour. Merci encore parce que nous pouvons partager ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs. Merci parce que tu nous as encore donné ces textes qui vont nous parler. Parler de toi. Parler par toi. Seigneur, aide-nous à être vraiment à ton écoute. Et dans la foulée, nous te présentons aussi cette offrande, Seigneur, qui est une partie de ce que tu nous as prêté. Seigneur, te demandons encore une fois qu'elle soit utilisée à bon escient pour, pas pour notre gloire, pas pour la gloire de notre Église, mais uniquement pour l'avancement de ton règne, pour ta gloire et pour l'expansion de l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous avais déjà dit, dès le départ, dans ce culte, que Dieu m'avait mis quelque chose à cœur. Donc, ma prédication a totalement changé. Ce n'est que reporté, je suppose. On verra bien. Et j'ai juste pris un texte de départ de 3 versets. Jean 2, les 3 premiers versets. Évangile de Jean, les 3 premiers versets. Et puis nous lisons aussi 3 versets un peu plus loin. Toujours dans l'Évangile de Jean. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Et on verra après un peu plus loin dans Jean 1. Jean chapitre 2, les 3 premiers versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » 3 jours après. 3 jours après quoi ? On se pose la question. 3 jours après quoi ? Oh, nous sommes seulement au 2e chapitre de l'Évangile de Jean. Il s'est déjà passé quelques événements. Il y a quand même un chapitre 1, juste avant. Outre le prologue qui nous a introduit dans la mission de Jésus, il y a un homme envoyé par Dieu. Son nom est Jean. Jean, dit le Baptiste. Et lui a rendu témoignage de Jésus. Et par 3 fois, Jean, l'évangéliste, parce que là, il faut faire la différence entre Jean, l'évangéliste, et Jean, le Baptiste, parlant avec les Juifs, vous savez que je me trompe même. Donc, dans l'évangile de Jean, je me reprends, Jean le Baptiste, parlant avec les Juifs, les sacrificateurs, les Lévites et les Pharisiens, dira qu'il ne connaît pas Jésus, dans ce premier texte, et que finalement, arrive à ce point-là, il n'y a pas grand monde qui connaît Jésus. Personne ne le connaît. Ce n'est que lors du baptême de Jésus qu'on va connaître un petit quelque chose. Et on va lire ce texte de Jean 1, Évangile de Jean. Et c'est pas facile, hein, avec 2 Jean comme ça, beaucoup de gens. Jean, chapitre 1, verset 32. Jean, Évangile de Jean, premier chapitre, verset 32. Jean le Baptiste rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Si on relit ce chapitre, on se rend compte que tout va très vite. Tous les jours se suivent, mais très très vite. Verset 29-35 nous a dit que le lendemain, ça va très très vite. En résumé, Jean est envoyé en Béthanie, au-delà du Jourdain, il discute avec les pharisiens qui sont venus de Jérusalem, et le lendemain, il baptise Jésus. Bon, ça va très très vite. Encore le lendemain, Jean rend témoignage à 2 de ses disciples qui deviennent aussitôt disciples de Jésus. Il faut lire tout le texte, évidemment. Hein. Juste un résumé qui va très très vite. Dont André, qui fut, lui, témoin de Simon qui deviendra Pierre. Faut suivre, hein. C'est pas important. Le lendemain encore, verset 43, c'est au tour de Philippe d'être recruté et qui lui va rencontrer Nathanaël qui devient aussi disciple de Jésus, qui lui était en route vers Galilée. C'est incroyable. Un chapitre, on est déjà bousculé. Tout ça pour dire que 3 jours après, il y a les noces de Cana. Jésus baptisait dans le Jourdain, un peu au nord de la mer. De la mer du Nord. Oh là là, je suis pas dedans. De la mer morte, excusez-moi, au nord de la mer morte. Et Cana est en Galilée, tout au nord du pays d'Israël, au moins une distance de 130 kilomètres. Donc si je suis la logique de l'évangile de Jean, il a fallu 3 jours pour faire ces 130 kilomètres. À pied, Jésus n'a pas eu vraiment le temps de discuter et de faire des disciples au cours de son voyage. Hein, 3 jours, 130 kilomètres, il faut les faire. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaisse. Il n'est pas connu. Jésus est toujours un profond inconnu. Mais le texte que nous avons lu nous dit bien que Jésus est invité et ses disciples, il vient à peine de connaître. 3 jours, il a déjà des disciples. Personne ne les connaît. Il est invité aux noces de Cana avec ses disciples. Ils sont là avec sa mère et c'est la grande réjouissance, un mariage, c'est chouette, chouette ambiance, tout va pour le meilleur, tout pour le meilleur dans le meilleur des mondes. Un petit peu comme notre église. Hein. Il y a quelque temps, on était réjouis d'un baptême, d'un mariage, d'une présentation, bref, de l'avancement. Wow, moi, j'étais réjoui de cette bénédiction. On était bénis. Et on bénissait aussi notre Père que, céleste, que la page de Bligny, on pouvait mettre, on avait des exaucements, on était contents. Et tant mieux, chouette ambiance aussi pour nous. Aux noces de Cana, la joie est aussi au rendez-vous. Mais au cours du déroulement, vous avez vu, il y a un couac, un hic, un imprévu. Il n'y a plus de vin. On ne vend pas qui, on en achète. C'est pas vraiment ça à ce moment-là. Hein. Surtout que les noces duraient 7 jours en Israël. Alors, hein, ça éclusait quand même. Hein. Et il fallait évidemment commencer à replanter la vigne. Bon, je passe tous les détails, impossible. D'autant que Jésus était invité, et sur 3 jours, il a fait des disciples. À mon avis, il a quand même reçu l'invitation avant. Donc il est invité avec ses disciples. Donc il y a quand même du monde en plus à ces noces de Cana. Je ne sais pas si les disciples faisaient tourner le minéral ou qu'ils avaient une très grande soif. En fait, le vin vient à manquer vu qu'il y a quand même beaucoup de monde en plus. Les autres invités n'ont peut-être certainement rien remarqué. Mais les organisateurs, c'est la catastrophe. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver en Israël. Manquer de vin, ça ne peut pas arriver. Et pourtant, ce qui arriva, arriva, ils n'ont plus de vin. Un peu tout comme notre communauté, et j'ai déjà cité hein, les accidents, les maladies, les imprévus, quelque sorte, c'est quand même l'hécatombe, il y a quand même des chaises qui sont vides. On sait bien qu'ils sont là, nos bien-aimés sont là. Les chaises sont vides. On commençait à se réjouir, à l'évidence. Dieu bénissait. Notre Père nous voulait apparemment que nous ne restions pas les bras croisés comme ça. Rien faire. On est content, Seigneur, merci. Ouais, ça marche. Oh, c'est moi. Oh, les gars. C'est moi qui dirige l'Église. C'est moi le Seigneur. C'est moi le Maître. C'est là que je vous arrête. Mais Seigneur, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Qu'avons-nous fait, nous, alors? Je suis persuadé que nous avons tous prié. Tous. Chacun de notre côté, mais nous avons prié. Chacun différemment, mais nous avons prié. Sans savoir parfois trop bien pourquoi ou comment, mais nous avons prié. Notre prière, certes, porté vers nos frères et sœurs en souffrance, mais aussi personnellement à nous. Il faut que ça s'arrête. Ça veut dire qu'il y a le rapport avec les noces de Cana. Il faut le refaire plutôt que ça ne s'arrête pas, lui. Que le vin continue à couler. Mais la démarche de la prière est la même. C'est la même chose. Prière aux noces de Cana. Voilà. Jean-Luc, sérieusement. Qui a pensé à prier à ce moment-là? Pour qui? Pour ce qui est des disciples, pourtant on connaît à peine le Jésus là, hein? D'accord, mais on le connaît à peine, on va le prier. À peine 3 jours. Ce Jésus, il n'a pas encore fait ses preuves. Il n'a pas fait de miracle encore. Oui, bon, Jean-Baptiste a dit qu'il était le Fils de Dieu, d'accord, mais on ne le connaît pas. Une seule personne pouvait vraiment le prier en connaissance de cause. celle qu'il avait portée pendant 9 mois, celle qu'il avait emmaillotée, celle qui s'était tracassée quand il a été perdu à 12 ans, celle qui n'a pas hésité à être un servant du Seigneur. Sa maman qui le connaissait bien. Sa mère va prier son fils. Oh, une prière toute simple. Il va juste exposer le problème. Ils n'ont plus de vin. Elle a pas dit fait quelque chose. Ils n'ont plus de vin. Nous connaissons la réponse de Jésus, hein. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Presque une phrase d'ado. Maman, tu m'as dit quelque chose, mais c'est autre chose. Un ado piqué au vif comme ça. Certes, cette prière adressée à Jésus aura quand même du poids, vu que Jésus va réagir et va intervenir. Vous êtes peut-être choqués sur le fait que j'interprète le dire Marie comme une prière, une eau plus de vin. Tout à fait banal. T'imagines, Seigneur, j'ai plus de vin. Descends dans la cave, j'ai plus de bouteille, Seigneur, j'ai plus de vin. Mais si je me réfère à ce qu'est la prière, c'est simplement apporter à Jésus nos besoins et les besoins des autres, outre la louange. C'est une prière. Seigneur, j'ai besoin. Si j'ai voulu appeler cette phrase prière, c'est parce que elle nous apprend beaucoup. Beaucoup sur nos prières à nous. Et dans la plupart des cas cités dans l'Évangile, les prières adressées à Jésus sont des prières de manque. Il manque quelque chose. Ils n'ont plus de vin. Dans d'autres versions, ils n'ont pas de vin. Là, ça pose encore plus de poids. Ils ont démarré la fête, il n'y a pas de vin, pas normal. Il manque le vin essentiel dans une fête juive. Mais si nous prenons juste l'Évangile de Jean, j'ai pas été dans les autres, nous voyons des gens venir à Jésus, tous à cause de leur manque. La Samaritaine n'a pas d'eau. Le fils de l'officier du roi n'a pas la santé. Le paralytique de la piscine de Bethesda n'a pas d'aide. La foule n'avait pas de pain. L'aveugle n'avait pas la vue. Lazare n'avait pas la vie. Je n'ai pris que l'Évangile de Jean. Nous venons à Christ parce qu'il manque quelque chose. On vient par intérêt. Si ça va bien. Souvent, c'est quand nous nous rendons compte de notre manque. Que nous avons besoin de prier. Ah, parfois on pense, ah Seigneur, oui, il manque ça, donc j'ai prié. Je ne dis pas qu'on prie pas, hein, attention. Hein. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'on loue pas non plus, mais parfois cette phrase qui résonne, il faut que ça s'arrête. C'est l'urgence. La prière devient essentielle. Ah, ça y est, il faut absolument, oui, aux urgences, il faut qu'on prie. Ils n'ont plus de vin. Je n'en peux plus. Je n'ai plus le courage. Je suis au bout du rouleau. Au bout du bout. Et dans certains manques, nous sommes impuissants. Impuissants. Par quelle puissance puis-je, moi, redonner la santé? Par quelle vigueur puis-je ouvrir les yeux? Par quelle force puis-je nourrir la foule? Uniquement par la prière. On n'a pas le choix. La prière apportée au Seigneur de la vie. Par la prière honnête. Seigneur, on n'a plus de vin. Dieu veut que nous arrivions à lui les mains vides, vides et fatiguées. Et instinctivement, nous on essaie de trouver une solution. On va quand même essayer. Bon, on ira par qui? On essaiera de trouver une solution pour ne pas arriver impuissant devant le Seigneur. Seigneur, je suis arrivé comme ça, mais... Alors nous faisons nos prières régulières, qui sont valables, hein, je ne critique pas, qui sont nécessaires, j'en dis ce qu'on vient pas. Mais parfois nos prières sont motivées par un sentiment de culpabilité, d'obligation. Faut que je prie, hein, sinon. Combien de fois j'ai entendu ça? Ah, oh, j'ai oublié de prier aujourd'hui. Mais notre papa, il veut pas ça. Il veut que nous arrivions les mains vides. Tout à l'heure dans une prière telle que nous sommes, telle que je suis, sans rien à moi. Telle que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Devant tout, devant l'ampleur du péché, nous sommes impuissants. Devant la maladie qui nous bloque, nous sommes impuissants. devant les aléas de la vie, parfois nous sommes impuissants. Tel un tsunami. L'épreuve nous rend impuissants, au point même de ne plus pas pouvoir lutter. On en a marre. Assez. Il faut que ça s'arrête. Ils n'ont plus de vin. Et la prière, c'est ce fait d'apporter notre impuissance. Impuissance au Seigneur. Et Thomas Merton, un moine trappiste, l'a magnifiquement résumé. La prière est une expression de qui nous sommes. Nous sommes des êtres incomplets. Nous sommes une brèche, un vide qui attend d'être rempli. Nous sommes vides. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les perdus, pour ceux qui ont un manque, pour ceux qui manquent quelque chose. Venez à moi, les forts, les soucis, les refus de la vie. Non. Venez à moi, vous, qui êtes fatigués et chargés. Heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux ceux qui ont faim et soif, etc. Je suis fatigué. Seigneur, j'en ai marre. Au secours. J'ai plus de vin. Il faut que ça s'arrête. Et quand j'ai entendu aussi dans une prière, Paul a demandé d'être libéré trois fois d'une écharpe qu'il avait dans la chair, que Dieu lui avait mise. Mais rien ne s'est passé. Que du contraire, Dieu lui a rappelé comment fonctionne l'évangile. De Corinthiens 12, 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien de volonté de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Nous avons reçu l'évangile dans notre faiblesse et notre impuissance. Et nous sauver nous-mêmes, c'est impossible. Dieu nous a donné le salut. Et la prière fonctionne de la même manière. Reconnaissant notre impuissance, nous venons à Dieu tel que nous sommes. Papa, j'ai besoin d'aide. Papa, s'il te plaît. Comme un enfant qui court vers sa mère, qui court vers son père. Au secours. Ah, mais souvent, notre orgueil nous empêche de voir et de reconnaître, oh, pas la puissance de Dieu, mais notre impuissance, notre orgueil. Ah, nous ne reconnaissons pas que nous sommes là, on a quand même essayé. Et puis, on s'étonne que nos prières restent sans suite. Tu vas demander à ton père et après tu fais toi-même. Moi, quand mon fils il me demande quelque chose et qu'il fait lui-même, moi je ne fais plus rien. Hein. J'attends. J'attends. Nous essayons parfois des prières comme ça, inadéquates ou inappropriées. Nous essayons de mettre des grands mots parfois sur une prière, de belles phrases. Ah, il faut bien que ça passe. Il va bien comprendre comme ça. Mais rien n'y fait. Seigneur, je suis solide. Ma foi est grande. Je te demande. Tu vas me donner. Ce qui est marqué quand même. Hein. Demandez, vous recevrez. Seigneur, j'en peux plus. Il faut que ça s'arrête. Dieu regarde au fait que son Fils, Jésus, nous suffit. Sa grâce nous suffit. Et se réjouit parfois de nos prières bâclées comme ça, sans persévérance. Seigneur, j'en ai marre. Petite flèche comme ça. Alors nous pourrions dire que les plus grands chrétiens solides prient beaucoup. Et si j'étais plus fort, je priais plus longtemps. Ça m'est déjà arrivé à tout le monde. Enfin, je suis tout seul, c'est pas grave. Les grands chrétiens prient peut-être davantage, oui, parce qu'ils se rendent tellement compte de leur impuissance, de leur faiblesse. N'essaie pas de se cacher. N'essaie pas de se cacher qu'ils n'ont pas les moyens. Simplement ouvrir la porte de la grâce. Seigneur, il faut que ça s'arrête. Et un journaliste posa une question à Edith Schaeffer, c'est l'épouse d'un évangéliste, Francis Schaeffer, pour ceux qui connaissent. Qui est la plus grande chrétienne en vie aujourd'hui? J'étais un peu choqué en lisant, mais je me dis, mais il y a quelque chose là. Qui est la plus grande chrétienne en vie aujourd'hui? Et voilà la réponse de cette dame. Nous ne connaissons pas son nom. Elle est en train de mourir du cancer dans un hôpital en Inde. Je parle de cette femme. Sous le tapis de sa vie d'obéissance, il y a un sentiment d'impuissance. Cela est devenu une partie de sa nature même, presque comme une respiration. Pourquoi ? Parce qu'elle est faible. Elle peut sentir son cœur agité, sa tendance à se comparer aux autres. Elle est choquée de la façon dont la jalousie peut jaillir en elle. Elle remarque comment le monde l'attire. En bref, elle ne fait pas confiance. Le monde, la chair et le diable, c'est trop pour elle. Le résultat, son cœur crie Dieu dans la prière. Elle a besoin de Jésus. Fin de citation. Reconnaître son besoin. J'ai un texte, une petite anecdote. J'étais très jeune et je projetais des films à l'époque pour Billy Graham et pour d'autres. Et l'aumônière de prison, la prison de Mons, me demande d'aller projeter un film à la prison de Mons, quartier des femmes. Je vous assure que j'avais tellement la trouille que je crois que c'est la seule fois où j'ai prié aussi longtemps, pendant tout le film. Tellement j'avais peur. Il me manquait cette assurance. J'étais là en prison avec 40 femmes autour de moi. Même les gardiennes, c'est des femmes. Hein. J'étais le seul homme là, avec des criminels. J'avais la trouille. Le manquement de confiance. Et au fur et à mesure que nous mûrissons dans notre vie chrétienne, nous nous rendons compte que nous sommes vraiment des pécheurs invétérés. Mais en même temps, nous découvrons combien nous avons besoin de la grâce de Dieu. Si on croit qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes et que nous pouvons vivre par nos propres forces, on ne prendra jamais la prière au sérieux. On n'y croira pas, cette prière qu'on fait. On n'y croira pas. Et on continuera à dire, ça ne sert à rien. Tu ne nous entends pas. Pourtant, il faut que ça cesse. Pour terminer, pour certains chrétiens, la prière n'a pas d'importance. Parce que Jésus n'est qu'une option du dimanche matin. Notre Père doit parfois nous pousser. Hélas, dans notre dernier tranchement. Dans notre dernier tranchement d'impuissance. Pour nous faire crier, il faut que ça s'arrête. Seigneur, il faut que ça s'arrête. Que dans notre euphorie de joie et de fête, que nous puissions encore discerner nos faiblesses et nos manquements, afin que cette prière d'appel à l'aide soit aussi naïf qu'un simple gosse, et non plus de vin. Il faut que ça s'arrête.